si vous avez quelque chose peut-être à retenir de ce matin. Bon, déjà, mon défi, c'est de ne pas essayer de vous perdre en cours d'étude de ces trois versets. Mais le titre, c'est « Que nous apprend Noé ?» Point d'interrogation. Donc, voilà un petit peu l'image que vous pouvez garder. Je le rappellerai à la fin. L'arche, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, « Que nous apprend Noé ?» Alors, nous avons vu que l'épître de Pierre avait été écrite pour encourager les premiers chrétiens à affronter les souffrances à venir. Donc, je serais tenté de dire, de changer le temps, enfin le verbe, pour nous encourager, nous les chrétiens d'aujourd'hui, à affronter les difficultés du quotidien et celles qui vont venir. Je pense qu'elles ne manqueront pas de venir. Au verset 17, le verset précédent donc nous dit « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si c'est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Pierre rappelle les souffrances du Christ qui l'ont conduit jusqu'à la mort. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables. Alors, ça fait pas mal de semaines ou de messages où Pierre nous exhorte, nous parle de souffrances, de difficultés. Alors, je pense que la parole de Dieu nous invite aussi à voir le plan que Dieu a pour nous. C'est-à-dire de mettre notre vie, notre but, notre direction en perspective. Est-ce que beaucoup disent ici dans cette salle savent faire du vélo? Qui sait faire du vélo? Levez la main. Tu ne sais pas faire du vélo. Est-ce qu'il y en a qui ont fait de la moto un jour dans leur vie? Le secret pour avancer correctement, notamment si le sentier est rocailleux, s'il tourne, ou si on va un peu vite en moto, et ainsi de suite, le secret c'est d'anticiper. Mais pour anticiper, il faut regarder loin. Je ne sais pas si vous êtes comme nous, mais en moto, si on n'y pense pas, en vélo, on a tendance à regarder le bout de sa roue, d'accord? Et ainsi de suite. Et la vie avec Christ, c'est pareil. Si on regarde que les petits cailloux du quotidien qui sont là, ça ne va pas bien. Et c'est pareil, quand on est en moto, je vous donne un tout petit détail, quand on arrive dans un virage, il faut regarder la sortie du virage et dire, je vois la sortie du virage et je vais passer là. Et non pas se dire, là je suis dans un virage, comment je vais faire pour m'en sortir? Chers frères et sœurs, on est appelés, on est enfants de Dieu, on fait partie d'un plan que Dieu a choisi pour nous, avec des peines et des difficultés. Et ça, au quotidien, il faut s'en rappeler. L'assurance, le but, il est figé, l'amour du Christ, c'est bon, il nous tient dans sa main. Par contre, vous êtes tous d'accord avec moi que tous les personnages que l'on peut voir dans la parole de Dieu, ils n'ont pas eu des chemins très difficiles, simples. Ils ont eu des virages compliqués et des fins un peu difficiles. Frères et sœurs, c'est mentir que de dire ça va être simple pour nous, enfants de Dieu, d'avancer aujourd'hui au quotidien. Il faut bien dire ça. Et pour pouvoir passer toutes ces difficultés du quotidien, il faut regarder le plan de Dieu. D'abord, ce qu'il a fait pour moi, être reconnaissant et regarder ce qui m'attend et être assuré de sa présence à mes côtés. Ça, on est exhorté à faire ceci, frères et sœurs. Sinon, on se décourage, on n'arrive pas. Vous avez sûrement des gens autour de vous, des exemples de chrétiens. Vous demandez, mais comment ils tiennent? Je vous donne une toute petite anecdote. Vous devez peut-être la connaître. À Lyon, dans notre assemblée, notre doyenne actuellement, elle a 90 ans, quelque chose comme ça. Montserrat Valbuena, peut-être ça vous dit quelque chose. C'est une dame immigrée espagnole. Elle est arrivée après la guerre en France avec son mari. Ils sont arrivés en France, ils ont eu 4 enfants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que lui, personne ne l'avait détecté, donc le papa, José, était porteur d'une maladie génétique qui s'appelle la chorée de Huntington. La chorée de Huntington, c'est à partir de 40 ans, c'est une dégénérescence totale du cerveau, complètement. Tout ce qu'il y a dedans, votre esprit fonctionne, mais tout le reste, chorée, ça veut dire en latin des gestes complètement désordonnés. Enfin, je vous fais pas de dessin. Cette sœur, elle est là, à 40 et quelques années, son mari, tac, il a déclenché la maladie. Je vous explique pas les années qui ont suivi et tout, maison spécialisée, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. 1, 2, 3, 4. Les quatre enfants, ils ont attrapé cette maladie. Il y en a trois qui sont morts aujourd'hui. Il y a encore une sœur qui est à Paris. Qui est ça. Il y a des moments, je me dis, moi, cette sœur, on est allé la visiter pour l'encourager avec le collège d'anciens plusieurs fois et tout. On ressortait de cette visite. C'était elle qui nous encourageait. Quand je vois encore aujourd'hui la foi de cette femme, je me dis, mais comment elle fait? Parce qu'elle vous répond tout simplement, le Seigneur m'aime, il m'a sauvé, je sais où il va, je sais qu'en leur temps, mes enfants ont rencontré le Christ, je sais qu'ils sont, ils sont avec eux aujourd'hui. Sans cette perspective-là, les difficultés au quotidien, il y a des moments, vous arrêtez tout. Imaginez le contexte pour ça. Donc, c'est important de mettre en perspective la parole de Dieu. Alors, revenons, pas à nos moutons, mais à notre texte. Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes. Un rappel, bien sûr, hein, ce verset 18 est un résumé donc du salut acquis par la mort de Christ, avec six caractéristiques. Il est mort pour les péchés. La mort de Jésus a effacé, supprimé, détruit le péché des croyants. Il faut bien comprendre ce qui se passe, ce qui s'est passé à la croix. Tu étais condamné, passé devant le tribunal de Christ et être condamné à mort. On est d'accord. Christ est monté sur la croix. C'est lui qui est passé devant le tribunal à ma place. Le jugement a été rendu pour mes péchés, et c'est pour ça que le Père me voit saint et me voit plus blanc que neige, comme on le chante. Ça veut dire que, on dit quelquefois, la justice du Père a été satisfaite parce que justice a été rendue, le sacrifice parfait, il a pris mes péchés, ils ont été condamnés. Donc, ces péchés, ils ont été, morts pour les péchés, une fois pour toutes. Tout est accompli, dira Jésus. La porte du salut est ouverte pour tous et rien ne pourra la refermer, si ce n'est lui-même. Il n'y a pas d'alternative au salut. Il n'y a pas de seconde chance. Selon les Écritures, l'œuvre du salut est parfaite. Il n'y a pas de seconde chance. Jusqu'à l'âge de 28 ans, j'ai été élevé. Je n'étais pas un grand catholique pratiquant, mais bon, j'avais fait tout ce qu'il fallait, quoi. Et puis, je me disais, au pire, il y aura toujours le purgatoire, quoi. On pourra toujours essayer de discuter, de tchatcher un peu. Non, la parole de Dieu nous dit, il est donné à l'homme de mourir une seule fois et c'est fini. Christ, innocent et juste, il est mort donc pour les coupables que nous sommes. L'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous, hein, nous dit Ésaïe 53, le verset 6. Il est venu pour, encore une fois, nous ouvrir le chemin. Le chemin. On est là. L'arrivée, le port céleste, il est là. Et entre les deux, il y a un chemin. Pour certains, c'est ligne droite. Pour certains, c'est plus que tordu. Il y en a pour d'autres, c'est beaucoup plus tordu que d'autres. Il y a des fois, je dis, Seigneur, pourquoi ma vie est si simple? Pourquoi ma vie est tant bénie alors que d'autres à côté de moi souffrent autant, je ne sais pas. Mais je sais qu'un jour mes yeux le verront et j'espère peut-être pouvoir lui poser la question. Mais bon, en attendant, sa grâce me suffit au quotidien. Donc il est venu pour nous ouvrir le chemin qui mène à Dieu, une pleine et entière réconciliation, un accès auprès de Dieu impossible sans l'acceptation de ce sacrifice parfait. Il est le seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Pas évident, hein? J'ai travaillé beaucoup les 10 dernières années de ma vie en Inde, et j'avais mon contact commercial là-bas, qui me disait, ah oh, Guy, c'est super, tu crois en Dieu, tu fais partie des born again, donc des personnes nées de nouveau et tout. Il avait étudié tout ça. Mais quand je commençais à attaquer ce fameux verset, seul Jésus-Christ est le seul chemin et unique, alors là, top, ça bloquait tout de suite. Parce que là-bas, il y a des dieux de partout, même dans les entreprises, vous rentrez, il y a des petits trucs, ils sont tous les midis, n'importe, ils sont d'une religiosité incroyable. Compliqué pour eux de dire, d'abandonner tout ça et de dire seul. Mais des fois, on a tous nos dieux dans nos vies et c'est compliqué aussi de les abandonner, hein, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin d'aller en Inde. Donc, il est le seul chemin. Aussi, quelque chose qu'il faut savoir, bien que nous rappelle ce verset, c'est que son corps, il est réellement mort. Ça veut dire qu'il a vraiment souffert. Quand il était sur la croix, c'est vraiment un homme incarné, c'est Dieu incarné. C'était pas Superman, hein, qui a ressenti aucune douleur ni quoi que ce soit, absolument pas. Il a été abandonné par son père et son corps est réellement mort, mis à mort dans son corps. Une double peine, il a connu la mort humaine, mais en même temps il a subi la condamnation de Dieu en étant pour un temps séparé de son père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Des versets tout simples, reprenez-les, lisez-les, mettez-vous, comme disait Pierre Barreto, en cinémascope, imaginez-vous la scène, n'est-ce pas, sur la croix, j'espère pas, mais quand même, et le Fils de Dieu, qui était avant même la création du monde, dans l'intimité parfaite avec son Père, dit, mon Père, mais pourquoi tu m'as abandonné ? C'est le Père qui a décidé de faire ça. Et enfin, bien sûr, il est ressuscité. En retrouvant son état normal, il a été rendu à la vie par l'Esprit. Dieu l'a ressuscité en lui redonnant son Esprit qui est la source de la vie. Romains 8, verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à vos corps mortels par son esprit, la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le port, il est là, dans ce que je viens de lire. Sinon, ce n'est pas la peine. Le château de cartes, il s'écroule complet. Christ est mort, il est ressuscité, il est le premier, et on va être au bénéfice. Frères et sœurs, je ne sais pas comment, dans quel état on va être, mais notre vieille carcasse, on va avoir un nouveau corps, nous allons ressusciter. Des fois, on oublie ça. J'ai eu le privilège ou la chance, ou je ne sais pas, d'accompagner, de faire beaucoup de cérémonies d'enterrement, d'obsèques. Mais ça ne s'arrête pas au cimetière pour nous, frères et sœurs. Pour tout le monde, ça ne s'arrête pas au cimetière. Pour certains, pour le jugement. Pour d'autres, pour la vie éternelle que nous sommes. D'accord ? En perspective, le chemin, le but. Levons les yeux de la roue du vélo qui est juste devant. Regardons loin. Je regarde l'heure. Ça va. Une petite note que m'a mis votre frère, cet enseignement de Pierre, une petite note historique, sur l'œuvre du salut de Jésus-Christ, a été réaffirmé comme fondement de la foi des premiers chrétiens par un texte qui, à l'époque où il n'y avait pas de support écrit, c'est-à-dire il n'y avait pas de Bible, hein. Nous on a la chance, on l'a, ils ont composé, chanté et appris par cœur un texte symbole des apôtres vers l'an 250. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été, j'entends quelqu'un qui le récite, c'est très bien, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et est remonté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les morts, d'où il viendra juger les morts et les vivants, et ainsi de suite, je crois au Saint-Esprit. Ce symbole des apôtres résumait l'enseignement reçu et par Jésus-Christ et transmis aux apôtres. Aujourd'hui, donc, il faut attendre les années 381 pour avoir une reformulation aujourd'hui reconnue par tous les chrétiens pour dire, cette formulation affirme que Jésus donc est mort pour nous, bien sûr. Il a été crucifié pour nous, pour toi et moi, sous Ponce Pilate. Il a souffert, a été enseveli, il est ressuscité des morts le troisième jour. D'après les Écritures, il est monté aux cieux. Christ est lui-même, donc il a souffert pour mes péchés. Alors, la suite du passage 1 Pierre 3, 19 et 20 est plus délicate et constitue l'un des passages les plus difficiles. Oui, ça m'est tombé dessus. C'était tombé sur Jean-Claude, mais ça m'est tombé dessus. Alors, vous me connaissez un peu, je suis un peu geek sur les bords. Vous savez tout ce que c'est qu'un geek ? Quelqu'un qui est un peu... Voilà. Clavier, informatique, tout ça. Et aujourd'hui, on entend de plus en plus parler, au niveau du monde de l'informatique, on entend parler de l'Internet et on entend parler de AI. AI qui veut dire intelligence artificielle. J'ai ouvert ChatGPT, j'ai tapé, donne-moi les diverses interprétations du verset 19 de 1 Pierre à 3. C'est tout, hein. je lui dis ça. Prédication aux esprits en prison après la mort. Certains interprètent le passage signifiant que, après sa mort physique, Jésus est descendu spirituellement dans le monde des morts pour prêcher à des esprits qui étaient en attente de jugement. Ces esprits sont parfois compris comme ceux qui avaient vécu avant la venue de Christ. Numéro 1. Proclamation de victoire aux esprits rebelles. Certains pensent que Jésus, après sa mort et avant sa résurrection, a proclamé sa victoire aux esprits rebelles, aux démons, montrant ainsi sa supériorité sur les puissances spirituelles maléfiques. Il y a il y a une grosse subtilité là. Il y a une version qui dit il est allé s'adresser à tous ceux qui sont morts dans l'attente du jugement et de leur dire voyez si vous aviez cru. Là, le deuxième, c'est il est allé s'adresser aux démons, aux anges déchus. Ces personnes-là, ces anges ne meurent jamais, sauf à la fin dans les temps de feu. Donc numéro 2, aux esprits, aux démons. Une troisième version qui, moi, à mon avis, ne me déplaît, mais bon, je vous l'ai dit, et certains le pensent. Une opportunité de repentance pour les défunts. Certains interprètent le passage comme une offre d'opportunité de repentance pour ceux qui, bien qu'incrédules de leur vivant, ont maintenant une chance de se tourner vers Dieu, même après leur mort. Troisième interprétation. Quatrième, référence à l'annonce de la victoire à travers Noé. Certains interprètent les esprits en prison comme une référence aux personnes vivant à l'époque de Noé qui, bien que maintenant décédées, ont entendu la proclamation de la victoire de Jésus-Christ par le biais de Noé. Alors, il y en a qui disent effectivement, Noé, vous connaissez l'histoire de Noé, Dieu a pris quand même une décision, il faut se rappeler. Dieu a déjà prononcé des jugements, le déluge, n'y en a que 8 qui ont été sauvés quand même. Hein. C'est notre Dieu. Ça veut dire que toutes ces personnes ont entendu, Noé leur a dit « Repentez-vous, nanana. » Ils ont rejeté Dieu complètement. Ils avaient des modes de vie complètement dépravés. Ici, cette version dit, ben voilà, il est allé annoncer tous ceux qui ont refusé de monter dans l'arche, entre guillemets, dit, ben voyez, hein, si vous aviez su, vous auriez dû monter, parce que, voilà. Bon. Ensuite, cinquièmement, allusion à des événements après la résurrection de Jésus. D'autres pensent que cette prédication aux esprits en prison fait référence à des événements qui ont eu lieu après la résurrection de Jésus, peut-être dans les premiers jours de la prédication apostolique. Référence, il y a une référence symbolique au baptême. Certains estiment que la prédication aux esprits en prison est une expression symbolique ou métaphorique liée à la signification du baptême, soulignant l'importance de la repentance et du salut à travers la résurrection de Jésus-Christ. Je sens que je vous ai perdu là, non ? Un peu. Hein ? Moi aussi, je vous le dis tout de suite. J'ai mon opinion, mais bon, si vous le voulez, je pourrais vous la transmettre. Sachez qu'il y a tout un tas de courants de pensée dans les milieux chrétiens, évangéliques, tel ou tel. Hein, d'accord ? Et la conclusion, il n'y a rien de faux dans ce qui a été dit, hein, c'est extraordinaire. La conclusion, il est important de noter que ces interprétations ne sont pas mutuellement exclusives. Voilà, hop, un petit échappatoire. Et différentes traditions théologiques peuvent adopter différentes perspectives. Le passage reste toujours aujourd'hui un sujet de débat et l'interprétation peut varier en fonction du contexte doctrinal de telle ou telle famille d'église. Point final. ChatGPT. Alors, voilà un petit peu la vision, je le pense, de Jean-Claude, je pense la mienne aussi. Bien que j'hésite entre deux, mais ça, c'est pas très important. Qui sont ces esprits en prison et qu'est-ce que Jésus est allé faire au séjour des morts ? Le mot esprit, c'est vrai, est utilisé, est associé aux anges et jamais à des personnes mortes. Hébreux 1,14 dit « Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu ?» Le psaume 104 dit aussi « Dieu fait du vent ses messagers, entre parenthèses ses anges, des flammes de feu, ses serviteurs. » Il est donc reconnu aujourd'hui, je pense que c'est par là que va notre préférence, la mienne et celle de Jean-Claude, que 2 Pierre 2, se montrer pour annoncer et proclamer sa victoire à ces anges déchus. 2 Pierre 2,4 dit aussi, pareil, il nous parle des anges déchus qui ont été jetés dans les ténèbres, dans les abîmes. Alors, aussi petite subtilité, qui n'est pas simple. On parle ici de séjour des morts. La Bible ne dit nulle part que Jésus a été en enfer. Il est allé dans le séjour des morts. Alors, précision. Qu'est-ce que c'est que le séjour des morts ? On a coutume de dire que tous ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont endormis ou sont dans la présence paisible de leur Dieu. Comme si le compteur temps s'est arrêté, mais dans la paix. Et tous les autres, ils sont dans un espace d'attente, entre guillemets, d'attente de quoi ? En attente du jugement. Et c'est après, effectivement, après le jugement, où il y aura la vie éternelle au ciel, nouveau ciel, nouvelle terre pour nous, et malheureusement, l'enfer, les temps de feu, et ainsi de suite, pour ceux qui vont passer le jugement. Mais vous voyez, cette phase intermédiaire, cette phase d'attente. Donc Jésus-Christ est descendu dans tous ses esprits, là où tous ses esprits sont là, et qui dorment, et qui patiente, et s'est adressé à eux. Donc la Bible ne dit nulle part que Jésus a été en enfer. Donc Acte 2,31 dit qu'il est allé au séjour des morts, en rapportant cette parole de David, car David, de façon prophétique, dit Jésus dans le psaume 85, et repris par Pierre dans son discours, qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption, le Christ. Donc il est descendu, mais il n'y est pas resté, bien sûr. Apocalypse 20 fait une claire distinction entre le séjour des morts et les temps de feu, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le jugement final est permanent, définitif des réprouvés, alors que le premier est le lieu provisoire où reposent les perdus, voilà, et les saints, bien sûr, mais les saints, eux, dans la présence de Dieu. Qu'en est-il de la prédication de Jésus ? En tout cas, le message de Jésus dans le séjour des morts n'est pas une offre de salut. On dit ça, on décide de faire ce choix-là avec Jean-Claude. Si la prédication est souvent associée dans le Nouveau Testament à la présentation et l'offre du salut, ici le sens évoque plutôt une présentation publique, une proclamation, une présentation de sa victoire. Il est descendu dans le séjour des morts et il a dit, ben voyez, la victoire, c'est moi qui l'ai rencontrée. Et on pense qu'il s'est adressé aux anges déchus. Je ne vois pas bien le Christ, d'une manière revancharde, aller dire à ceux qui n'ont pas cru aux hommes et aux femmes en lui ou qui l'ont rejeté. Nananer, t'as vu ? Enfin, je ne sais pas, il y en a qui croient un peu ça, mais c'est... Voilà. Encore une fois, on ne va pas se bagarrer avec ça. Pierre ne nous dit pas quel a été le message proclamé aux esprits célestes en prison. Mais en aucun cas, ça ne peut être un message de rédemption, puisque si c'est à des anges qu'il s'adresse, les anges ne peuvent être sauvés, nous dit Hébreux 2,16. Il s'agit probablement d'une déclaration de victoire sur Satan et ses anges. Pour tout dire, la Bible n'est pas parfaitement claire sur ce qu'a exactement fait Christ pendant ces 3 jours. On pourra lui demander, séparant sa mort et sa résurrection. Il y a des moments où je me dis, mais pourquoi tu as mis ce verset pour qu'on se pose des questions, qu'est-ce que ça va m'apporter? On peut dire cependant qu'il a consolé les saints et les a amenés dans leur demeure éternelle et proclamé sa victoire aux anges déchus et en prison. Ça veut dire aussi que peut-être Christ, il se montre à nous, il est tout puissant au niveau des démons, au niveau des anges déchus, au niveau de toute créature. Nous savons aussi avec certitude qu'il n'y a pas de salut après la mort. Voilà ce qu'il faut se rappeler. Il n'y a pas de salut. Selon les Écritures, il n'y a pas de salut après la mort. Jésus n'a donné à personne une nouvelle chance. Après la mort, nous serons jugés, Hébreux 9, 27. Sans deuxième chance possible. Il n'est pas descendu en enfer, encore moins il n'y a souffert. Son œuvre de rédemption s'est achevée à la croix. That's it. Dans une période de persécution, et aujourd'hui aussi, savoir que Dieu prend soin du petit nombre, 8 personnes du temps de Noé, ça peut aussi nous encourager. On reviendra sur cette image pour Noé. Au verset 20 et 21, Pierre fait aussi allusion à Noé. La seconde 21 dit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a précipité dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il les a précipités dans les ténèbres et les réserves pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé. Lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impur. » C'est dur, hein? Il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu au déluge. Il y en a beaucoup qui ont désobéi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être, cette image de l'arche, cette image du déluge, Aujourd'hui, on va parler de berger, on va parler de bergerie. L'Ancien Testament nous parle de ouvrez tant que la porte, c'est-à-dire Jésus-Christ est là, est ouverte, et rentrez dans la bergerie. Nous voudrions que le monde entier, y compris Dieu, soit sauvé. Malheureusement, l'histoire nous fait, l'histoire d'Israël, l'histoire des hommes avant Noé, nous montre ô combien, par définition, terrible, ça nous fait mal. Le péché œuvre dans les cœurs des hommes et des femmes et ils rejettent complètement Dieu. Donc si nous nous sentons seuls en tant qu'enfants de Dieu, si la France entière ne crie pas « Alléluia, Dieu est puissant, on croit », c'est normal, c'est décrit dans la parole de Dieu. Et ça ne va pas aller en s'améliorant, je ne crois pas. Je ne pense pas être prophète, mais bon. Par contre, l'image de Noé, contre vents et marées, vous pouvez relire son histoire, elle est intéressante. Quel que soit le nombre de railleries, de condamnations qu'il a pu avoir, il est resté fidèle à son Dieu, sur la montagne, les bras, et disant, allez-y, rentrez, 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 si vous croyez au Christ. C'est notre mission aujourd'hui. Je pense que Dieu nous confie à chacun d'être des petits Noé, d'annoncer autour de nous, voyez, l'arche est là, la bergerie, elle n'est pas loin, la porte, c'est Christ. Entrez, annoncez cette invitation. Je ne sais pas pourquoi, mais Christ a décidé de faire de nous des poteaux indicateurs, des ambassadeurs, alors ça, quelle responsabilité. Mais bon, c'est comme ça. Il faut montrer la direction, c'est notre rôle. On ne prend pas la place de Dieu, c'est Dieu qui convainc de péché, c'est l'Esprit Saint qui un jour a agi dans vos cœurs et vous a permis de vous tourner vers le Christ. Mais quelqu'un d'autre autour de vous, ou quelquefois une révélation, vous a adressé et vous a montré le chemin de la bergerie. J'ai bientôt fini, je vous rassure. Alors, il y a aussi une évocation, l'image du baptême. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau, nous dit la parole. Pendant 120 ans, ce prédicateur, 120 ans, il vivait longtemps à l'époque. Pendant 120 ans, ce prédicateur fidèle avertit les hommes autour de lui que Dieu allait détruire le monde par l'eau. Moi, je me fais une image de ça, et ça me rappelle une autre image. Quand j'étais gamin, c'était les premiers cinémas en noir et blanc, ou télévision en noir et blanc, et c'était l'époque des Far West. Et on était heureux comme tout pour les gamins, on regardait les Far West. Et toujours dans les Far West, il y avait toujours un prêcheur qui, sur une diligence, disait « Repentez-vous, repentez-vous de vos péchés. » Vous voyez cette image? Gardez-la à l'esprit. On se fichait tous de sa tête. Il y a quelques années en arrière, j'ai pas mal bourlingué dans le pays d'origine de nos amis, là. Et je me souviens, pour me trouver au carnaval, en la capitale de à la Nouvelle-Orléans. Alors le carnaval à la Nouvelle-Orléans, c'est débauche and co, hein, donc no comment. Par contre, vous avez très souvent des petits groupes de jeunes d'église qui se promènent avec une croix avec marqué Christ est mort pour toi. Petit Noé. Alors je vous demande pas d'aller défiler tous les dimanches matins sur la place d'Uzès avec une croix marquant « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ». Mais ce sont des images fortes pour nous aider à nous rappeler notre mission, le chemin sur lequel le Seigneur nous a marqués. À ceci, le monde verra que l'amour de Dieu est avec vous. Donc il faut parler, il faut bouger, il faut témoigner par notre vie. Alors, donc, pendant ces 120 ans, en guise de remerciement, il a dû subir la moquerie, le rejet. Cependant, Dieu le justifia en le sauvant du déluge, lui et donc sa famille. On pourrait se poser la question, si nous sommes justes, pourquoi sommes-nous si peu nombreux? Pierre répond, il y eut une époque où seulement 8 personnes au monde avaient raison et tous les autres avaient tort. En général, dans l'histoire du monde, la majorité ne s'est jamais trouvée du côté des justes. Les croyants sont habituellement un petit nombre, aussi notre foi ne devrait pas chanceler à cause du petit nombre de sauvés que nous sommes. Des fois, on est plus nombreux, l'église est plus pleine. Aujourd'hui, on est un peu moins, mais il n'empêche que... Voilà. Aujourd'hui, à l'époque de Noé, il y avait seulement 8 croyants. Aujourd'hui, Dieu merci, il y en a des millions depuis le temps. Pour bien comprendre, nous devons voir le sens symbolique de l'arche du déluge. Vision symbolique. Hein. L'arche peut être considérée, on l'a vu comme la bergerie, comme une vision de Dieu, de Jésus-Christ. Le déluge symbolise le jugement. Et l'arche, c'est le seul moyen de salut, il n'y en a pas 50. Quand le déluge se produit, seuls ceux qui se trouvaient à l'intérieur de l'arche, à l'intérieur de la bergerie, furent sauvés. Tous ceux qui étaient dehors, peu de gomme, terminé. C'est la réalité. Il faut le dire. Aujourd'hui, on a un peu tendance à avoir un monde évangélique bisounours, mais il faut savoir appeler un chat un chat. Comme l'arche, Christ est pour nous un refuge, c'est la porte. C'est vrai, on dit souvent « j'ai été sauvé ». Mais de quoi? Apprêtez-vous à répondre. Hein. Tu vas témoigner « j'ai été sauvé de quoi ?» On dit facilement « je vais avoir la vie éternelle ». Ouais, ça c'est le côté bien. Mais sauvé de quoi? Et là, ça va nous pousser à dire les 50 autres pourcents de la parole de Dieu. Quoi, hein. Voilà. Il y a un temps pour tout, il faut savoir le faire. L'arche supporta l'eau du jugement de Dieu sur le monde. Elle a pris l'orage de plein fouet, les tornades, les pluies diluviennes, hein, ça veut dire que des tempêtes, ils en ont pris plein la tête, avant que le calme revienne et que la colombe arrive avec sa petite branche de je ne sais pas trop quel olivier, n'est-ce pas ? Voilà. Ainsi, Christ porta la fureur du jugement de Dieu contre notre péché. Pour ceux qui sont en lui, il n'y a plus de jugement. Ça peut être aussi, pour nous, enfants de Dieu, une image, la réalité de ce qu'est le jugement de Dieu. On a tendance à... Mais il faut regarder ça, regarder ce qui s'est passé au déluge et ce qui va se passer à la fin des temps. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, c'est les temps de feu, quoi. C'est terminé. Et d'une manière éternelle. C'est pas de ma faute, même si on trouve un peu ça raide, mais c'est Dieu, notre Créateur, c'est comme ça. L'eau entourait l'arche de toutes parts, mais elle conduisait en toute sécurité ses occupants vers une création nouvelle. Beaucoup d'images hein, dans cette arche. De même, nous qui croyons au Sauveur, nous sommes transportés sains et saufs au travers d'une scène de désolation vers la résurrection et vers une nouvelle vie. Impeccable, il me reste 4 minutes pour finir. Des leçons pour nous. Nous devons nous attendre à de plus en plus d'opposition et même de persécution. Et même peut-être de souffrance à cause de notre foi. C'est une réalité dans le monde, dans plein de pays aujourd'hui. Hein. La chrétienté est la religion la plus persécutée au monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on est cool dans nos baskets, là. En France, on fait ce qu'on veut, on se réunit comme on veut, on peut même distribuer des tracts, enfin voilà. Mais petit à petit, peut-être que ça peut se dégrader. Christ a souffert, nous qui sommes pécheurs, espérez y échapper, point d'interrogation. Que celui qui veut me suivre porte sa croix, c'est de plus en plus vrai. Deuxième leçon, notre service pour Dieu ne porte pas sur des résultats visibles. Notre service pour Dieu, Danny Roth est né au Maroc, une sœur, elle est venue en France, il y avait 3 ans. Ses parents, grands-parents ont vécu à l'époque où ce pays était pas une colonie, mais je ne sais pas quoi, un protectorat français. Elle nous témoignait le nombre de familles venues d'outre-Atlantique qui, pendant des années, voire même des générations, ont parlé de l'Évangile en toute discrétion, qui n'ont vu aucun fruit, rien, mais qui sont restées fidèlement. Et aujourd'hui, une église dans l'ombre grandit au Maroc, notamment. Donc, il ne faut pas s'attendre à voir des choses, des conversions comme ça, instantanément. Ça peut arriver, mais bon, ce n'est pas une obligation. C'est Dieu qui convertit, qui touche les cœurs. La croix semble un échec à vue humaine, mais la victoire sur le monde est assurée. Jésus ressuscité s'est montré aux puissances du mal comme le vainqueur, puis il s'est montré à tous, puis aux disciples. La victoire sur le mal est remportée et elle sera pleinement révélée à son retour. Troisième leçon, nous sommes associés, je, tu es associé à cette victoire. Par le baptême, cette image du baptême, bien sûr, encore une fois, hein, on est d'accord, ce n'est pas le baptême qui sauve. Hein. Par le baptême, on s'identifie à sa mort. Hop, on plonge dans l'eau et résurrection, on ressort, nouveau corps. Voilà. Colossiens 1, 27, Christ en vous, l'espérance de la gloire, Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir. J'ai un tout petit mot, je me suis mélangé dans mes textes, voilà. Et je termine par ce mystère extraordinaire que les gens ont du mal à comprendre. Le Christ est au milieu de nous, en nous. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, nous assure d'être associés à la gloire de Dieu. Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Alors nous pouvons aller de l'avant avec votre confiance dans notre vie de témoin. La victoire, il l'a déjà remporté. Frères et sœurs, je dirais, nous sommes déjà rentrés dans l'arche. On est dans la bergerie, je l'espère. Posez-vous cette question peut-être. Suis-je vraiment dans l'arche? Suis-je dans la bergerie? Rappelez-vous que l'arche, il a été ballotté. Je vais faire une métaphore. Clin d'œil pour Michel, mon épouse. Ils ont sûrement dû avoir le mal de mer pendant un certain temps. N'est-ce pas? Des fois, on peut avoir le mal de mer dans nos pèlerinages terrestres, mais la victoire nous est assurée. Est-ce que je peux demander à mon frère Keith de terminer par la prière? Amen, amen. Et vive la prédication textuelle. Je n'explique pas, ça oblige à bosser. Hein. C'est quand vous avez un sujet libre, bah, votre cœur, il va où? Vers ce que vous aimez bien partager. D'accord? Tandis que là...